Europe 1. Écoutez le monde changer. 15h, 16h, sans rendez-vous sur Europe 1. Mélanie Gomez.
Bonjour, bonjour et bienvenue dans Sans Rendez-vous. Votre émission santé, c'est tous les jours, du lundi au vendredi, de 15h à 16h. Malgré le confinement, nous restons mobilisés pour vous informer, pour répondre à toutes les questions médicales que vous vous posez sur cette épidémie de coronavirus. Et pour m'épauler dans cette mobilisation sur l'antenne d'Europe 1, entre ces consultations quotidiennes, il est à mes côtés tous les jours, le docteur Jimmy Mohamed. Bonjour Jimmy, comment allez-vous ?
Bonjour Mélanie, bonjour à toutes et à tous. Bah écoutez, ça va très bien et vous ?
Bah écoutez, moi ça va aussi, hein, impeccable, on reste mobilisé, on l'a dit. Allez, au programme aujourd'hui, nous aurons d'abord en ligne le docteur Antoine Moncel. Il est médecin réanimateur à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, à l'APHP. Alors depuis le début de cette épidémie, il est en première ligne dans la prise en charge des patients les plus graves. Et il est aussi le coordonnateur de l'essai clinique Stromakov 2, qui teste actuellement un traitement pour améliorer les patients intubés grâce à des injections de cellules souches issues de cordon ombilical. Nous ferons un point avec lui sur cette piste. Après ça, nous parlerons d'une conséquence de cette épidémie. Les soins de kinésithérapie sont fortement impactés. Un vrai drame pour certains patients qui en ont absolument besoin. Alors pour en parler, nous appellerons Frédéric Sroor de l'Ordre National des Kinésithérapeutes. Vous verrez que cette profession a aussi un rôle central actuellement dans la rééducation des malades du Covid, par exemple, quand ils quittent enfin la réanimation. Enfin, vous le savez, dans Sans Rendez-vous, on continue de vous informer sur cette épidémie, mais on essaye chaque jour aussi de prendre soin de vous. Et aujourd'hui, on va prendre soin des enfants avec le pédopsychiatre Louis Vera. Nous verrons comment s'assurer qu'il ne soit pas trop impacté psychologiquement par cette situation exceptionnelle que nous vivons. Et puis il nous donnera aussi de bons conseils pour gérer peut-être les enfants les plus agités, comment organiser les choses à la maison pour ne pas finir en burn-out parental. Et puis pour finir cette émission, comme tous les jours, on retrouvera Catherine Blanc, notre psychanalyste, qui va nous parler aujourd'hui de ce que le confinement a au contraire apaisé professionnellement.
Mélanie Gomez vous reçoit Sans Rendez-vous sur Europe 1.
Tout de suite, pour ouvrir votre magazine santé, vous êtes avec nous par téléphone, docteur Antoine Moncel, bonjour.
Bonjour, merci de m'avoir invité. Bonjour à tous.
Et merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes médecin réanimateur à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Alors justement, je vous remercie parce que vous êtes dans votre service en première ligne depuis le début. En tout cas, en réa. Alors, il paraît que ça va mieux, c'est ce que nous disent les autorités, que vous soufflez peut-être un peu. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui chez vous, effectivement ?
Oui, alors je suis médecin anesthésiste réanimateur. Alors effectivement, la situation se calme actuellement au niveau du flux de patients qui présentent des tests positifs au virus SARS-CoV-2. Donc ça se calme très clairement. On sent bien le plateau, voire la phase descendante de ce plateau. Après, on reste très très concentré sur notre tâche.
Mais c'est un plateau, vous le dites, qui reste très haut, c'est-à-dire que là, vous n'avez pas retrouvé la capacité de réa d'avant. On a toujours les murs qui sont poussés et des lits bien plus remplis qu'avant, on est d'accord, ou qu'en temps normal en tout cas, c'est ça ?
Exactement, on est avec des augmentations capacitaires qui ont doublé, triplé, voire quadruplé en fonction des centres de l'assistance publique des hôpitaux de Paris en tout cas. Et donc oui, on est toujours sur une configuration qui est modifiée par rapport à la configuration de base. Et donc avec tout ce que ça comporte comme modification au niveau des équipes médicales et des équipes paramédicales, hein, au niveau des infirmiers et des aides-soignants également.
Jimmy Mohamed ?
Alors pour ceux pardon, qui ne le sauraient pas, un malade qui a le Covid et qui est en réanimation reste hospitalisé combien de temps ? Et est-ce qu'on peut le comparer avec une autre infection ? Par exemple, je ne sais pas, quelqu'un qui a fait une pneumopathie bactérienne ou une grippe, lui restera en moyenne combien de temps pour se rendre compte à quel point ça met du temps avant de lider les vies de réa ?
Mais c'est quelque chose qu'on commence seulement à comprendre, ça, puisque jusqu'à présent c'était calé sur les séries chinoises et italiennes, mais en tout cas en France apparemment, il faut plusieurs semaines d'hospitalisation en réanimation. Donc ce qu'on appelle les durées moyennes de séjour sont effectivement extrêmement augmentées par rapport aux durées moyennes de séjour que l'on aurait pour, par exemple, en effet, une pneumonie communautaire. Par exemple, nous, notre moyenne de séjour habituellement, elle est de 7 jours à 10 jours. Et donc là, on va probablement augmenter sur plusieurs semaines en ce qui concerne le secteur des patients Covid. Oui.
Est-ce que vous intubez toujours beaucoup de patients graves ou pas ? Nous, c'est vrai qu'on a l'impression, on a eu beaucoup d'experts qui se sont succédés sur ce plateau. On a l'impression que même en réa, vous avez découvert pas mal de choses au fur et à mesure, je dirais, de l'épidémie. Est-ce que vos pratiques en anesthésie réanimation, vos pratiques médicales, est-ce qu'elles ont évolué depuis le début dans la prise en charge de ces malades très graves ?
Oui, elles ont évolué. Hein. Il y a une partie, le socle de la réanimation, je dirais, qui est commun avec tous les patients de réanimation, de soins critiques, c'est-à-dire des patients qui présentent des dysfonctions d'organes vitaux. Cette partie-là, ce socle n'a pas été modifié. En revanche, sur les prises en charge un peu plus spécialisées au niveau respiratoire, effectivement, vous avez raison, on a beaucoup appris en quelques semaines. Sur le taux d'intubation, je pense pouvoir dire qu'il est à peu près constant. Après, il faudra voir un petit peu ce que donnent les études sur les cohortes hein, prospectives qui sont en cours. Mais en tout cas, nous, en réanimation, on a ce recrutement qui est biaisé, puisque par définition, quand un patient rentre dans notre secteur...
Oui, déjà, il a besoin. Ouais.
Voilà, exactement. Mmh. Donc, je dirais que sur le taux d'intubation des patients les plus graves, il reste à peu près constant. Mmh. Mais la manière de les ventiler, la manière de les gérer au niveau respiratoire a été modifiée en fonction de l'épidémie, oui.
Alors, je crois que c'est un peu complexe, mais c'est vrai que j'ai parlé avec pas mal de réanimateurs qui nous expliquent qu'au début, enfin, qu'on s'est rendu compte finalement que l'intubation et puis peut-être la ventilation très forte, ça les améliorait pas forcément les patients. C'est ça, il y a des choses qu'on a vraiment découvertes de ce point de vue-là. Hein.
Et là-dessus, c'est vraiment difficile de se prononcer tant qu'on n'a pas les résultats des cohortes hein, qui sont actuellement en cours. Ouais. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ils présentent.
On prend pas en charge un Covid plus, pareil qu'une pneumopathie habituelle, hein, c'est ça.
Bah, je dirais au départ, il y a beaucoup de choses que l'on fait pareil. Et après, il y a beaucoup de monitorage, donc des paramètres qu'il faut regarder au niveau de la mécanique ventilatoire que l'on peut voir, au niveau du ventilateur, des choses comme ça. Et on a appris à naviguer en fonction du type de patient. Donc on essaie de vraiment de s'adapter au cas par cas.
Jimmy ?
Et on a découvert de plus en plus de manifestations neurologiques chez les patients qui sont Covid. Est-ce que vous en avez constaté, vous ?
Des modifications, pardon ?
Des manifestations neurologiques liées au Covid ?
Oui. Oui, tout à fait. Donc là encore, on était assez surpris sur pas mal de symptômes qui sont assez spécifiques, qui sont assez fréquemment rencontrés, comme vous avez probablement entendu parler des troubles de l'odorat, des troubles du goût,
oui.
Comme on dit anosmie à Gesine. Donc ça, ce sont des signes qu'on rencontre assez classiquement. Ce sont surtout les virologues, les infectiologues ou les urgentistes qui les voient, puisque nous, par définition, nos patients, quand ils arrivent chez nous, la plupart du temps sont inconscients. Ils sont sédatés. Mmh. Néanmoins, oui, il y a un cortège de symptômes neurologiques qui sont observés. Certains sont spécifiques au virus et d'autres sont moins spécifiques, comme par exemple les maux de tête ou les troubles de conscience ou certains vertiges.
Mais quand on dit neurologie, parce que c'est vrai que pour les gens, c'est pas forcément facile à comprendre. Quand on parle justement de cette perte de goût, d'odorat, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est pas le nez qui déraille, entre guillemets. C'est parce qu'il y a quelque chose au niveau du cerveau qui se passe pas bien. Hein, c'est ça. Hein, c'est une complication neurologique, la gueusie et l'anosmie.
Oui, exactement. On n'a pas encore la physiopathologie, comme on dit, précise. On ne connaît pas encore très bien les mécanismes qui expliquent ces dysfonctions. Mais oui, tout à fait. Ce qui dysfonctionne quand on perd le goût ou qu'on perd l'odorat, c'est très probablement les nerfs, en fait, qui vont au niveau du nez et au niveau de la langue et qui servent à sentir le goût et sentir les odeurs.
Et ça veut dire que ce virus, il est capable de pénétrer dans le cerveau. Alors c'est ça l'explication, ou est-ce que là aussi on n'est pas encore tout à fait certain de ce qui se passe ?
On n'est pas encore tout à fait certain de ce qui se passe. On a des hypothèses. Vous posez la question de ce qu'on appelle la neuro-invasivité. Est-ce que le virus est capable de rentrer dans le système nerveux central ? Est-ce qu'il est capable de rentrer dans les neurones ? Ça, on verra également avec la recherche qui est en cours. On sait qu'il y a des modèles expérimentaux chez la souris, par exemple, qui montrent que le virus est capable de rentrer dans le système nerveux central, justement à partir des nerfs du goût ou de l'odorat, ou encore à partir du système pulmonaire, et qu'il est capable comme ça de remonter le système nerveux. C'est démontré chez l'animal et pas encore chez l'homme. On n'a aucune preuve de ça. Ce qu'on sait, c'est que la porte d'entrée du virus, vous l'avez probablement entendu parler de ça, et c'est le récepteur ACE2, et on sait que ce récepteur, qui est la clé vraiment d'entrée du virus, il est exprimé par un certain nombre de cellules dans le système nerveux.
D'accord. Docteur Moncel, on reçoit pas mal de questions ici d'auditeurs d'Europe 1, notamment sur les profils de patients à risque, qui là aussi ont un peu été précisés depuis le début. On a une question de Didier, je ne sais pas si vous allez pouvoir y répondre, mais on va l'écouter ensemble déjà.
Bonjour, je m'appelle Didier, j'habite dans le Loiret. Je voudrais savoir si les personnes qui portent un pacemaker sont des personnes à risque. Merci, au revoir.
Alors je ne sais pas si vous pouvez répondre là-dessus, mais est-ce que, je ne sais pas, en réa, par exemple, on s'est rendu compte que des personnes qui ont des fragilités cardiaques, puisque porteurs de pacemaker, ils sont plus représentés ou pas ?
Oui, alors c'est en effet, hein, c'est pas le port du pacemaker lui-même, hein, qui est un facteur de risque, mais sur les séries qui sont en cours d'étude, en effet, il apparaît que les patients qui ont des maladies cardiaques peuvent être plus à risque de développer des infections graves. Donc ça, c'est encore à l'étude. On aura la réponse, je pense, dans quelques semaines, quand on aura analysé nos données sur les grandes cohortes françaises.
D'accord. Merci, docteur Moncel. On n'en a pas encore fini avec vous. On se retrouve dans quelques minutes.
Europe 1.
Dans un instant, son rendez-vous revient avec une émission toujours consacrée à l'épidémie de coronavirus. Le médecin réanimateur Antoine Moncel reste avec nous pour nous en dire plus cette fois sur l'essai clinique qu'il coordonne à l'APHP, essai dans lequel on teste les injections de cellules issues de sang de cordon ombilical. En espérant que cela améliore peut-être les patients intubés, il nous dira ce qu'il en est à ce stade. A tout de suite sur Europe 1.
Mélanie Gomez sur Europe 1. Europe 1.
Sans rendez-vous.
Mélanie Gomez.
Heureuse de vous retrouver dans Sans Rendez-vous, votre émission santé. Alors, il est toujours en ligne avec nous, le docteur Antoine Moncel. Vous êtes médecin réanimateur à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Et vous êtes aussi le coordonnateur de l'essai clinique baptisé StromaCov2, qui a été lancé par l'APHP. Alors, c'est quoi la stratégie qui est de traitement, en tout cas, qui est évaluée dans cet essai? Est-ce que vous pouvez nous expliquer?
Oui, alors, pour lancer cette étude, on s'est appuyé sur deux concepts. D'abord, le premier concept, c'est que pas mal d'articles montrent très bien que ces patients qui sont atteints de formes graves de ce virus présentent une pneumonie bilatérale, donc une pneumonie assez sévère avec une hyperactivation de toute l'inflammation. Ça, c'est la première chose. Et cette hyperinflammation se déclenche sur les premières heures, les premiers jours de la maladie. Le second concept, c'est qu'on sait que ces cellules qu'on appelle cellules mésenchymateuses, qui sont des cousines des cellules souches, eh bien, peuvent avoir des effets immunomodulateurs, c'est-à-dire anti-inflammatoires, si vous voulez, assez puissants. Et donc, on est parti de ce postulat et on a décidé de voir si on pouvait mettre en évidence un effet bénéfique chez ces patients.
Jimmy ?
Et justement, les cellules de sang de cordon, on les a déjà utilisées chez l'homme dans d'autres pathologies. Est-ce que vous pouvez nous en citer quelques-unes ?
Alors, c'est pas des cellules de sang de cordon, ce sont des cellules de, si vous voulez le terme exact, c'est la gelée de Wharton, donc c'est le tissu de soutien de cordon ombilical, donc c'est pas exactement des cellules de sang de cordon. Alors, ces cellules ont déjà été utilisées dans pas mal de pathologies humaines, notamment dans, il y a un dernier article qui montre que chez plus de 2000 patients, ces cellules ont été utilisées de manière complètement sécuritaire. Après, plus précisément, sur ces cellules que nous employons et qui sont produites par le centre Méhari de Saint-Louis, dirigé par Jérôme Larguero, eh bien, ces cellules ont déjà été testées dans le lupus, par exemple, une maladie auto-immune inflammatoire.
D'accord. Et ce qui tombe bien, je crois, hein, vous allez me dire si je me trompe, mais c'est qu'on en a déjà en stock de ces cellules, donc vous avez pu démarrer assez vite, en fait, hein.
Oui, grâce, encore une fois, au centre Méhari et grâce, justement, aux procédures accélérées via la PHP, on a pu débuter l'essai assez rapidement à partir du 6 avril.
Donc ça veut dire que les premières injections ont commencé, et on va en parler juste après, mais ces cellules d'ailleurs, même si on n'en a pas en stock suffisamment, mais que vous vous rendiez compte là au cours de votre essai que c'est magique, que ça marche super bien et qu'il en faut plus, c'est quelque chose qui est facile à fabriquer, c'est des cellules qui se multiplient assez vite en culture, je crois, hein.
Alors, elles se multiplient vite en culture, ça c'est vrai, mais la quantité que l'on a à produire pour traiter un patient est quand même assez conséquente. Après, il y a des solutions probablement industrielles avec des partenariats qu'on pourrait développer, évidemment, si on voyait que les premières analyses démontrent un effet thérapeutique extrêmement important.
Docteur Jimmy Mohamed ?
Et vous avez commencé déjà à injecter justement ces cellules chez des patients, et si oui, chez quel type de patients vous allez sélectionner ? Je suppose que c'est des patients plutôt graves, non, que les patients qui ont des formes plutôt légères ou modérées ?
Oui, tout à fait. Donc on a débuté depuis le 6 avril, on a inclus une dizaine de patients dans cet essai pour le moment, et donc effectivement nos critères d'inclusion dans cette étude, qui est une étude randomisée contrôlée, hein, avec un bras placebo et donc un bras traitement, inclut des patients qui présentent une forme particulièrement sévère, en réanimation, sous ventilation artificielle, avec un certain nombre de critères, et surtout un critère temporel, il faut qu'ils aient développé les premiers signes dans les 4 premiers jours. Donc on est vraiment dans les 4 premiers jours de la forme la plus sévère de la maladie.
Donc très tôt, dès que c'est sévère en tout cas. Et chez ces patients, donc il y a quoi ? Il y a plusieurs injections, pendant combien de temps ? Enfin, comment ça se déroule très concrètement dans les 10 premiers que vous avez commencé à injecter ?
Bah concrètement, on a prévu d'inclure donc 60 patients dans cette étude-là, et donc il y a 3 injections à 48 heures d'intervalle. Donc c'est un schéma thérapeutique qui couvre vraiment les 5 à 6 premiers jours de cette forme sévère de cette maladie, avec une injection par voie intraveineuse.
Jimmy?
Et du coup, vous l'avez dit, il y aura un groupe placebo, c'est-à-dire qu'on va contrôler ce traitement à un groupe qui, certes, n'aura pas de traitement au sens propre, mais qui continuera malgré tout à avoir les soins de réanimation nécessaires. On ne va pas laisser l'autre groupe mourir. Voilà, vous allez quand même comparer pour savoir si le traitement est efficace.
Tout à fait, tout est fait en plus de tout le traitement habituel. C'est-à-dire que dans les deux groupes, on traite les patients exactement de la même manière que ce que l'on fait chez tous les patients admis en réanimation. Simplement, en plus, ils auront soit un placebo ou alors le traitement expérimental.
Donc du coup, tous les patients, on est d'accord, ont le traitement habituel, ce qu'on fait aujourd'hui, ce avec quoi on soigne, on essaye de soigner les patients en réa. Mais comment vous savez à la fin, du coup, si leur guérison elle est due à ces injections ou, je sais pas, au processus naturel et aux autres soins que vous leur avez prodigués?
Ben justement, c'est par ce design qui peut paraître comme ça un peu rigide, mais ce design de deux groupes, comme on dit en parallèle, avec une randomisation, avec le placebo qui est comparé au traitement expérimental, ce design permet de réaliser des statistiques à la fin de l'étude, et ces statistiques permettent de dégager ou pas un effet significatif en comparant le devenir des patients.
Et docteur Moncel, cette piste, est-ce que c'est une piste vraiment curative ou l'objectif, ce serait déjà au moins d'améliorer significativement, hein, j'espère, leur état? C'est quoi l'objectif pour vous?
L'objectif, c'est en effet une piste pour calmer l'inflammation. Donc essayer de faire en sorte que la résolution de cette forme grave, de cette forme sévère, soit plus rapide par rapport aux autres patients qui ont tous les traitements par ailleurs habituels. Donc l'idée, c'est vraiment d'améliorer leur oxygénation, de les réveiller plus vite, de les extuber plus vite et qu'ils sortent plus vite de réanimation. C'est vraiment ça l'idée.
Bon, et je ne sais pas si vous avez déjà des résultats, mais est-ce qu'on a une idée un petit peu de l'efficacité déjà à ce stade? Ça fait une semaine, enfin combien de temps là?
Donc ça fait depuis le 6 avril, donc là on n'a pas assez de recul pour dire si on a un effet ou pas. Et encore une fois, il faudra forcément passer par des analyses statistiques. Donc les premiers résultats, on les aura en termes de mois.
Merci beaucoup, docteur Moncel, d'avoir été avec nous pour nous éclairer donc sur cet essai clinique que vous coordonnez à l'Assistance publique Hôpitaux de Paris, donc basé sur les cellules de sang de cordon. Enfin, c'est un peu plus complexe que ça, mais ça, c'est pour le grand public, ça vient du sang de cordon ombilical. Merci encore, docteur.
Merci à vous. Europe.
Dans un instant, nous parlerons d'une conséquence de cette épidémie. Les soins de kinésithérapie sont fortement impactés. Pour en parler, nous appellerons Frédéric Sroor de l'Ordre national des kinésithérapeutes. Vous verrez que cette profession a aussi un rôle majeur actuellement dans la rééducation des malades du Covid. On en parle juste après. Restez sur Europe 1.
Mélanie Gomez sur Europe 1. Sans rendez-vous,
15h, 16h sur Europe 1.
Mélanie Gomez.
Nous sommes ensemble jusqu'à 16h pour votre émission santé. À mes côtés, toujours bien sûr, le docteur Jimmy Mohamed. Et à présent, nous accueillons par téléphone Frédéric Sroor. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes président de la commission déontologie du Conseil de l'Ordre des kinésithérapeutes. Alors, d'abord un mot sur ce que cette épidémie a eu comme conséquence dans les cabinets de kinés de ville, je dirais. Tous les cabinets ont dû fermer leurs portes, c'est ça?
Oui, tout à fait. Il y a eu une recommandation ordinale de fermeture des cabinets de kinésithérapie, un peu comme les dentistes également, dès le 17 mars, me semble-t-il, et jusqu'à aujourd'hui. Donc les cabinets n'ont pas encore réouvert. Nous espérons qu'ils réouvriront à partir du 11 mai, normalement, si tout se passe bien. Nous sommes en train de mettre en œuvre les mesures pour accueillir les patients en cabinet de ville. Mais les soins de kinésithérapie ne se sont pas interrompus pour autant, puisque les kinésithérapeutes allaient voir des patients au domicile, ceux qui nécessitaient vraiment des soins. Et puis, ils sont en première ligne également sur les patients en kinésithérapie à l'hôpital.
Et Frédéric, justement, je voulais vous demander, dans les soins de kinésithérapie, il y a soins et soins, si je puis dire. Pour quel type de patient, par exemple, donnez-nous quelques exemples, c'est presque, je sais pas, quasiment vital, les séances de kiné, expliquez-nous.
Oui, tout à fait. Alors là, on parle des patients qui ont été atteints du Covid. Il y a véritablement une nécessité absolue de prise en charge en kinésithérapie. Alors, lorsque les patients sont en réanimation, ben, les kinésithérapeutes participent aux soins de réanimation classique, puisqu'il y a toujours des kinésithérapeutes en réanimation pour vérifier la ventilation des patients, etc. Et puis, dès que les patients sortent de réanimation, c'est là que le rôle du kinésithérapeute est très important, dès qu'ils commencent à être extubés ou même quand ils sont encore intubés, surtout sur la rééducation, la réhabilitation motrice de ces patients-là qui ont véritablement besoin d'une prise en charge pour les remettre actifs, pour les faire travailler leurs membres, leurs muscles, parce que les conséquences de ces épidémies-là, enfin de l'infection Covid sur des patients qui sont restés intubés longtemps, c'est une grande faiblesse en fait. Hein, beaucoup. On retrouve
Frédéric,
beaucoup.
On va y revenir sur ces enfants, ces parents, excusez-moi, pas ces enfants, sur ces patients qui sortent de Covid, de réanimation souvent. Ce que je voulais dire, c'est aussi les patients hors Covid qui ont vraiment obligatoirement besoin de vous, par exemple ceux atteints de mucoviscidose, enfin ces patients que vous voyez au domicile, ceux-là, vous avez continué à aller les voir pour leur rééducation, etc. Ça, vous vous déplacez toujours?
Complètement. Alors ça, depuis le début de la crise, ça fait partie des patients dont on est obligé de poursuivre les soins. Il y a effectivement tous ces patients qui sont atteints de mucoviscidose, qui ont besoin de soins quotidiens. Il y a les patients neurologiques également, qui ont des pathologies neurologiques, qui, s'ils restent trop longtemps sans kinésithérapie, vont décompenser sur d'autres problèmes. Des patients qui sont en insuffisance respiratoire, qui ont des bronchopneumopathies obstructives, c'est-à-dire des gens qui sont encombrés au niveau respiratoire, qui ne peuvent pas rester sans leurs soins de kinésithérapie, et plein d'autres cas encore comme cela. Alors c'est sûr que depuis le 17 mars, la personne qui est lombalgique chronique a dû mettre un petit peu en suspens ses soins de kinésithérapie, les différer. Et comme depuis une semaine, depuis le début de la semaine, on a le droit à la téléconsultation, et bien tous ces soins-là ont pu être remis en œuvre, ils vont être remis en œuvre progressivement.
Justement, Jimmy, ceux-là de patients, ceux qui souffrent par exemple de lombalgie chronique, vous les voyez, vous, en consultation, justement, ils souffrent beaucoup. Il y en a beaucoup qui souffrent là du manque de kiné, entre guillemets.
Exactement. Beaucoup de patients renoncent aux soins, que ce soit le soin médical, les dentistes ou même les kinésithérapeutes. Et justement, est-ce que vous craignez qu'à la sortie de cette crise, vous alliez récupérer des patients dans de très mauvais états alors que vous avez réussi jusque-là à les équilibrer, à les améliorer, puisque la kinésithérapie fait partie des traitements, moi, que je considère comme médicamenteux et qui sont nécessaires. Donc, est-ce que vous craignez en sortie de crise une seconde vague, mais une vague non liée au Covid, mais plutôt aux conséquences de l'absence de soins?
Alors, on craint effectivement cela, mais ce que j'ai remarqué quand même globalement en France, c'est la responsabilité des kinésithérapeutes qui, alors même que le télésoin n'était pas mis en œuvre, ont continué à suivre leurs patients à distance. Et on sait que pour toutes ces pathologies de l'appareil musculo-squelettique, la lombalgie, les problèmes d'épaule, les problèmes de genoux, les exercices sont extrêmement importants. La kinésithérapie active est très importante. Et cela, les kinés ont pu effectivement mettre en œuvre ces traitements à distance, orienter les patients, continuer à les suivre, même bénévolement, bien évidemment, puisque le télésoin n'était pas mis en œuvre. Donc, les seuls patients qui sont effectivement à risque de troubles fonctionnels majorés, c'est ceux qui ont été opérés juste avant l'épidémie. Ils ont eu des interventions d'épaule, des interventions de genoux juste avant le Covid. Et ceux-là, on n'avait pas forcément la possibilité de les voir tout de suite.
Et justement, je reviens sur les patients Covid, là, pour le coup, pour qui vous avez donc un rôle majeur, pour cette rééducation, notamment à la sortie de Réa. Le travail que vous faites, ce sont des exercices qui prennent beaucoup de temps. Je veux dire, ça dure combien de temps, ce temps de rééducation pour ces patients? Alors, j'imagine que c'est très subjectif d'un patient à l'autre, mais néanmoins...
Oui, ça va dépendre de leur niveau de fatigabilité. Mais effectivement, entre le moment où les patients sont à l'hôpital, sortent de réanimation, où ils sont extrêmement fatigables, et où il vaut mieux répéter plusieurs séances dans la journée de quelques minutes, et les patients qui rentrent à domicile, sur lesquels on va voir une fois par jour, pour les réhabiliter un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure, s'ils sont capables de le faire, effectivement, il y a une marge de manœuvre qui est différente. Mais ce sont des patients qui doivent absolument retrouver une fonction motrice, une capacité respiratoire. Ils sont fatigués, ils sont essoufflés. Et donc, on a un travail très important de réhabilitation à réaliser.
Jimmy ?
Et ce travail de réhabilitation, il est important même chez des sujets jeunes. Souvent, on associe kinésithérapie à personnes un peu âgées, fragiles. Mais est-ce que des jeunes de 30, 40 ans ont besoin de la même kinésithérapie qu'une personne un peu plus âgée ?
Après infection Covid.
Oui,
bien sûr, après une infection.
Oui, les patients qui ont 40-50 ans, hein, qui sont jeunes, se retrouvent extrêmement fatigués à leur sortie d'hôpital et ont besoin effectivement des mêmes, d'une même réhabilitation. La seule différence, c'est que les patients qui ont plus de 70 ans, eux ont des comorbidités, ont d'autres pathologies qui parfois décompensent du fait de ces immobilisations, du fait qu'ils soient restés alités longtemps. Et donc, on doit lutter également contre cela.
Merci beaucoup Frédéric Sroux d'avoir été avec nous pour ce focus donc sur les soins de kinésithérapie dans ce contexte si compliqué pour tout le monde médical, on l'a compris. Bon courage pour la suite et merci encore.
Merci à vous, au revoir.
Europe 1, Mélanie Gomez.
Dans un instant, votre émission Santé revient et à présent, nous allons parler de la santé psychologique de nos enfants. Comment éviter de les mettre aussi trop sous pression au cœur de cette épidémie? Comment organiser leur journée aussi pour que tout le monde y trouve son compte et ne craque pas? C'est juste après. Mais avant ça, on va écouter un peu de musique. C'est le chanteur bruxellois Noé Préchoff. Ça s'appelle « À nous ».
À nous dans le désordre, mais dans l'intransigeance, à nous qui devons mordre et à nous dans l'urgence, à nous pas la mode, à nous dans le décor, à nous qui ne savons pas comment tenir nos corps, à nous dans l'univers, à nous dans l'infini, à nous dans le manque d'air, étonné d'être en vie, à nous dans l'écriture et à nous sans les mots, à nous dans les ratures et dans nos sacs à dos, qui rêvons de forêt, qui rêvons de rivière, à nous dans le métro, qui cherchons la lumière, à nous qui poursuivons des perdants magnifiques, à nous dans l'illusion d'un chemin prophétique, à nous qui débordons dans les rires et les larmes, qui ne faisons pas le deuil de nos jours de flamme. Quand on avait 10 ans, à grandes enjambées, pédalant, pédalant pour l'éternité. Nous marcherons 1000 autres lunes, 1000 autres jours avant demain, avant que demain ne nous prenne les copeaux d'espoir que l'on tient. Traverserons 1000 autres dunes avec nos défauts, nos faux pas, avec nos semelles de brume, qui que l'on soit. À nous qui ne jouons ni aux pauvres ni aux fous, parce qu'on en voit d'autres sombrer face à nous. On peut avoir un toit et une corde au cou, on peut avoir des droits et marcher à genoux. À nous qui nous parlons, nombreux dans le miroir, à nous qui voyons double, qui voyons blanc et noir, à nous les trop polis qui n'en pensons pas moins, qui tendons l'autre joue mais qui serrons les poings. À nous qui passons pour des antipathiques et surtout pour des cons à chercher l'authentique. À nous dans les chansons d'il y a 40 ans, mais à nous qui guettons devant, devant, devant. À nous dans les bobines, dans le grain maladroit, dans les cartes postales et dans les feux de joie. À nous qui ne vendrons jamais nos vérités, à nous qui imploserons et ça ne saurait tarder. Nous marcherons 1000 autres lunes, 1000 autres jours avant demain, avant que demain ne nous prenne les copeaux d'espoir que l'on tient. Traverserons 1000 autres dunes avec nos défauts, nos faux pas, avec nos semelles de brume, qui que l'on soit. À nous qui fuyons là où ça parle en vain de télévision ou de magasin, à nous qui sommes là, qui tombons comme chacun, dans le panneau, dans les réseaux, dans le vide et le trop-plein, mais qui nous préparons à quand ce sera fini, quand il faudra se parler et redevenir amis, quand on pourra se dire tout est son contraire, sans que ça doive passer par une carte mère, quand on ne pourra plus savoir qui va où, savoir qui vaut combien et qui se fout de nous. À nous sans drapeau, à nous sans étiquette, à nous sans lingots, à nous sans paillettes, à nous dans nos verres d'eau ou dans nos cafés noirs, qui ne maquillons pas nos nuits de déboire, qui ne trinquons pas sur les places branchées, qui siphonnent dans le vent notre fragilité. Nous marcherons 1000 autres lunes, 1000 autres jours avant demain, avant que demain ne nous prenne les copeaux d'espoir que l'on tient. Traverserons 1000 autres dunes avec nos défauts, nos faux pas, avec nos semelles de brume. Nous marcherons 1000 autres lunes, 1000 autres jours avant demain, avant que demain ne nous prenne les copeaux d'espoir que l'on tient. Traverserons 1000 autres dunes avec nos défauts, nos faux pas.
Ça fait du bien en ce moment, un peu de musique. C'était le chanteur bruxellois Noé Préchoff. Il a tout juste 25 ans et vous venez d'entendre son titre pop, à la fois un petit peu poétique. C'était « À nous ».
Mélanie Gomez vous reçoit sans rendez-vous sur Europe 1.
De retour sur Europe 1 avec le docteur Jimmy Mohamed pour votre émission Santé. Depuis 5 semaines, notre émission s'adapte évidemment, vous l'avez compris, hein, nous restons mobilisés pour vous informer, mais de chez nous, alors avec bien souvent Jimmy et moi, nos enfants juste derrière, on gère ça comme on peut. Alors moi c'est l'heure de la sieste, tout va bien, mais chez Jimmy je sais pas. Alors justement, il va être question de nos
aussi,
enfants,
bon,
ça va, c'est déjà ça, mais ça, moi ça dure pas toujours jusqu'à la fin, alors on va voir. Il va être question de nos enfants, de vos enfants aussi évidemment, et pour cela on va accueillir tout de suite en ligne le docteur Louis Vera, bonjour.
Bonjour Mélanie, bonjour Jimmy.
Vous êtes pédopsychiatre à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Vous êtes déjà venu plusieurs fois dans cette émission. Alors aujourd'hui, dans une première partie, là tout de suite, on va s'intéresser au travail scolaire parce que je vous le cache pas, chez moi ici, c'est la panique. Hein, c'est ce qui est vraiment le plus difficile à gérer. Honnêtement, je crois pas être idiote, hein, enfin peut-être, hein, mais on s'en sort pas. Hein, rassurez-moi, est-ce que c'est normal ou est-ce que je suis juste nulle comme maman, maman prof, je sais pas trop.
Eh bien, c'est parfaitement normal. Et c'est le message que je tiens à passer à tous les parents et aux enfants et adolescents qui écoutent. C'est normal d'être en difficulté pour travailler depuis la maison en ce moment. Mais j'aimerais aussi leur dire autre chose. J'ai parlé à un jeune tout à l'heure qui me dit, d'ailleurs ce jeune voulait que je l'appelle Donatien, bonjour Donatien, qui me dit « je me mets la pression pour y arriver ». Et ça n'est pas le moment de se mettre la pression. Ça n'est pas le moment, alors qu'on nous dit que l'économie est en train de se casser la figure. Moi, je dis à mes patients, est-ce que tu tiens le coup pendant l'apocalypse zombie ? Il ne faut pas se mettre la pression. Et au contraire, il faut ralentir. Et alors qu'on est en train de mettre la pression aux parents pour leur dire, bon, alors vous faites du télétravail. En même temps, vous tenez la maison, vous faites à manger et vous faites travailler les gosses. Il ne faut pas qu'on transmette ce stress aux enfants.
Alors, docteur Vera, je vais vous donner un... Oui, allez-y, terminez, pardon.
Il faut accepter que ça ne marche pas toujours.
Bon, allez, comme ça ne marche pas toujours, moi, je vais vous donner un exemple au hasard. Hein. Quand on a un enfant en CM2, qu'on télétravaille, je ne sais pas, pour préparer une émission radio, par exemple, qu'on a un mari qui gère déjà une petite fille de 2 ans surexcitée, c'est qui doit s'y coller au CM2 à la maison ?
Alors, justement, pour les enfants en primaire, c'est encore plus compliqué que pour les autres, parce qu'ils sont habitués à avoir un enseignant avec eux toute la journée, et le travail en autonomie est très compliqué pour eux. Ils vont faire des petites phases de travail en autonomie, donc il faut bien souvent qu'un des parents s'y colle, effectivement. Mais là, il faut alterner. Et j'entends souvent mes jeunes me dire, bon, alors, c'est papa qui fait les maths, maman qui fait le français, ou l'inverse, évidemment. Et il faut que chacun, finalement, travaille avec l'enfant là où il se sent à l'aise. Parce que il faut pas être stressé. Quand on est nul en maths et qu'on se dit allez c'est parti, je vais faire des équations différentielles avec son gamin, eh ben il va tout de suite sentir le stress, ça va le stresser aussi et ça le fait pas à ce moment-là.
Bon, moi ça va, j'en suis pas encore aux équations différentielles ou je ne sais quoi. Jimmy, chez vous comment, c'est quoi le niveau à la maison de scolaire?
C'est du niveau CP, mais c'est très difficile et je rends hommage aux professeurs qui finalement font un travail bien plus dur que ce que je pensais ou ce que la population pouvait croire. Et en pratique, comment est-ce qu'on s'organise justement dans une journée, puisque j'ai quand même l'impression que faire les devoirs à la maison et le temps scolaire est nettement plus rapide et court qu'une journée classique à l'école?
Eh bien, effectivement.
Alors, vous prenez comme un manche, vous aussi. Hein.
Alors, je pense pas que Jimmy. Alors, si Jimmy s'y prend comme un manche, c'est qu'il s'y prend comme tous les parents, finalement.
Oui, je plaisante. Voilà.
Merci.
Mais parce que c'est très compliqué. Et alors, vous savez que j'aime bien raconter des histoires. Je vais la faire très rapide. Premier jour de confinement, je suis en téléconsultation et puis là, je reçois des textos de ma femme. Ton fils va passer par la fenêtre. Quoi? Comment? Qu'est-ce qui se passe? Non, je te jure, si tu rentres pas faire les...
Un fils de pédopsie, ah oui, c'est embêtant quand même.
Un pédopsie qui bosse avec des jeunes qui ont des troubles des apprentissages. Elle me dit, si tu rentres pas à la maison faire les devoirs, c'est fini, il va y avoir du sang sur les murs. Et effectivement, alors qu'il a jamais eu de soucis, il est en CE2, eh ben, elle s'est rendue compte de ce que c'était que de bosser à la maison et le travail formidable que font nos enseignants. Parce qu'il faut les tenir, les gamins. Et puis surtout, il faut leur expliquer les choses. C'est ça qui manque aux enfants aujourd'hui en période de confinement, c'est qu'il n'y a pas l'enseignant pour leur expliquer les choses et que finalement, ils en sont réduits à faire des fiches d'exercice. Par exemple, pour Jimmy, effectivement, la lecture, l'apprentissage de la lecture, c'est quelque chose d'encore plus compliqué pour les CP que d'être en confinement et de pas avoir l'enseignant. Bon, il y a beaucoup de ressources quand même sur Internet qu'on peut aller chercher avec quelques logiciels d'aide pour aider dans ce travail qui est difficile pour les parents. Donc encore une fois, je le dis, c'est difficile pour les parents et il n'y a pas à culpabiliser quand ça marche pas.
Bien sûr.
Et d'ailleurs, certains jours, quand l'enfant n'arrive pas à travailler, pas à se concentrer, pas à se mettre au boulot, ben il faut lâcher.
Ouais, on laisse tomber. Si on perd une journée, c'est pas grave, on rattrapera même dans le week-end s'il le faut. Jimmy disait, c'est plus court la journée à la maison de travail, parce qu'évidemment, il n'y a pas toute la partie apprentissage avec le professeur, que nous d'ailleurs, on n'est pas capable de faire de toute façon. On fait ça plutôt le matin, l'après-midi. Est-ce qu'il y a un moment qui est privilégié pour ces apprentissages-là, à la maison, quoi, hein, mais est-ce qu'on le fait sur une demi-journée? C'est quoi qui est préférable selon vous?
Allez, si on part du principe qu'on a réussi, et là on est un super-héros, hein, à garder un rythme veille-sommeil qui correspond à peu près à ce qu'on fait en période normale, c'est-à-dire que les enfants vont être couchés entre 21h30 en fonction de leur âge, et non pas entre 22 et 23h, et que du coup on se lève vers 7h, on sait que les capacités de concentration, elles sont maximales entre 9h et 12h. Alors, okay,
donc
ça ne veut
ça
pas dire qu'il faut faire... j'allais dire justement, il ne faut pas pour autant faire de l'esclavagisme scolaire. Il faut leur faire des pauses et adapter en fonction de leur âge. Un petit en CP, on va le faire travailler 20 minutes et ensuite on fait une pause. C'est que lorsqu'on fait une pause, on ouvre les fenêtres pour évacuer un petit peu du coronavirus et puis pour faire rentrer un petit peu d'oxygène. Et en même temps, on fait un peu d'exercice physique. 20 minutes de travail, 10 minutes d'exercice physique, c'est pas grand-chose, hein, un petit peu d'étirement... d'aérobie, qu'on met de la musique, on se défoule, et puis ensuite on peut passer à une autre séquence de travail. Mais il ne faut pas les faire trop longues. En fait, il ne faut pas épuiser nos enfants. Et ce qui se passe en primaire, c'est que les enseignants ont appris à respecter leur rythme naturel. À la maison, on n'a pas cette habitude-là, et on a envie que ça aille vite, et on dit aux enfants, allez, il faut se débarrasser du boulot, là. Plus vite tu vas le faire, plus vite tu seras débarrassé, ensuite tu fais autre chose. Eh ben non, il faut leur faire faire des pauses. Et surtout pour les primaires, il ne faut pas enchaîner une heure de travail. Il faut faire au maximum 40 minutes, puis 15 minutes de pause.
Et on fait la récré à la maison. Ok, très bien. Merci docteur Véra, on n'en a pas encore fini avec vous. On reste encore un peu ensemble.
Europe 1.
Dans un instant, vous l'avez compris, on reste avec le docteur Véra et on va s'intéresser d'un peu plus près au psychisme de nos enfants. Comment leur expliquer ce qu'il se passe sans trop les angoisser? Faut-il leur mentir peut-être un petit peu? On va voir. Et comment les occuper aussi en dehors du temps scolaire? On vous donne des conseils dans quelques minutes. A tout de suite sur Europe 1.
Mélanie Gomez sur Europe 1. Sans rendez-vous, 15h, 16h sur Europe 1. Mélanie Gomez.
Votre émission Santé sans rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h en compagnie du docteur Jimmy Mohamed. Alors il est toujours en ligne avec nous, le docteur Louis Véra. Vous êtes pédopsychiatre à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Alors à présent, on va s'intéresser au psychisme un petit peu de nos enfants. D'abord, comment vous conseillez de leur parler de ce qui se passe autour de nous en ce moment? Bon, la plupart, ils ont quand même compris. Hein. Maintenant, ça fait 5 semaines qu'on est confinés. Ils ont compris qu'il y avait un virus. Mais quand même, c'est très très long tout ça. Qu'est-ce qu'on peut leur dire en ce moment, là, après 5 semaines de confinement?
Alors effectivement, c'est ce que j'allais vous dire. La première chose, avant de leur parler, c'est de faire le point sur ce qu'ils savent. Et déjà, donc, on va leur demander ce qu'ils ont retenu, ce qu'ils ont compris de ce qui était en train de se passer, parce que bien souvent, ils en savent beaucoup plus que ce qu'on l'imagine, parce qu'ils sentent les choses et parce qu'ils vont aussi entendre les parents parler, en fait, entre eux. Et puis ensuite, je pense que la meilleure façon d'en parler avec nos enfants, c'est d'être honnête. Justement, pas de petits mensonges. On est en train de vivre une situation exceptionnelle que, je l'espère, nos enfants ne vivront pas une deuxième fois ou plusieurs fois dans leur vie. Et puis, il faut que le message passe. Il faut qu'ils comprennent pourquoi ils ne peuvent pas voir leurs copains, retrouver les camarades de classe. Et puis, si jamais ils se croisent dans la rue à distance, pourquoi il ne faut pas aller se jeter sur eux? Et donc, je pense qu'effectivement, il faut être honnête. Et puis, leur parler de ça, parce que aller leur parler de ça, pas forcément attendre que les enfants viennent vers nous pour en parler, il faut nous aller leur en parler, ça leur permet de parler aussi, parce qu'ils ont senti le stress que les parents ressentaient, que ce soit un stress financier, un stress pour leur santé, ou le stress de rester confinés tous dans la même maison, alors que d'habitude, on est un peu éparpillés, on se retrouve pour 2, 3, 4 heures le soir. Ils ont senti ce stress-là et le fait d'en parler avec eux, ça permet de libérer la parole. Oui. Ça leur permet de venir poser des questions qu'ils n'auraient pas forcément osé poser.
Docteur Jimmy Mohamed ?
Et justement, il y a des enfants qui sont déjà un peu anxieux par nature et qui là, avec le confinement, et vous l'avez un petit peu évoqué, le stress financier, le stress lié à la maladie, où on sait que des gens tombent malades, peuvent être encore un peu plus stressés, avoir plus d'angoisse. Qu'est-ce que vous conseillez justement pour ces enfants ?
Alors justement, pour ces enfants-là, eh ben, il faut ralentir le rythme. Et c'est ce que je leur dis. J'ai parlé à un jeune cet après-midi qui me parlait de son stress et je lui ai dit, mais c'est le moment où il faut se poser, où il faut ralentir le rythme et où il ne faut pas se prendre la tête. Et je lui dis finalement, la priorité que tu dois avoir aujourd'hui, c'est apprendre à vivre avec les autres dans le même appartement sans qu'il y en ait un qui passe par la fenêtre et pas de te stresser sur le lendemain. Je lui dis, il faut apprendre à se recentrer sur le moment présent. Et c'est ce qu'on doit tous faire, les adultes aussi, se centrer sur le moment présent, sur ce qu'on peut ressentir et puis en discuter. Pour les enfants, le plus important finalement, c'est de pouvoir en parler et évacuer ce qu'ils ressentent de manière à gérer le stress.
Il n'y en a pas aussi ce risque pour certains enfants de voir apparaître peut-être des tocs liés à l'hygiène. On n'arrête pas de nous bassiner avec les spots. Évidemment, c'est important, hein, le lavage des mains, etc. Ça ne peut pas augmenter ce genre de comportement un peu compulsif chez les enfants aussi ?
Alors, c'est justement ce que je disais au début du confinement. Et ben là, pour le coup, les tocs, ils sont ravis. Hein. Ils se sentent powerful. Hein. Il n'y a pas de risque de développer des tocs si on n'a pas une certaine tendance déjà à en avoir. Et puis, ce que montre ma pratique est plutôt rassurant. Finalement, j'ai pas mal d'anxieux dans ma pratique pour qui je me demandais comment ça allait se passer. Et ben, j'en ai les 5-6e qui me disent « Ah, moi, le confinement, peinard, hein, parce qu'ils restent à la maison, ils se sentent plutôt bien et ils sont pas plus stressés, au contraire, que ce qu'on aurait pu croire. » Et mes jeunes qui avaient des tocs n'en font pas forcément plus. Ah, c'est leurs parents qui s'arrachent les cheveux en leur demandant des conseils, justement, pour respecter les gestes barrières et les règles d'hygiène.
Jimmy ?
En parlant d'arrachage de cheveux, un moment qui est souvent difficile et qui est encore plus difficile maintenant, je trouve que c'est l'heure du coucher. J'ai l'impression que les enfants, le soir, sont surexcités, ils ne veulent pas dormir. Comment faire en sorte que, justement, ces moments de coucher ne se transforment pas en énorme crise de nerfs familiale ?
C'est vrai que les enfants se dépensent beaucoup moins en temps de confinement que dans une journée d'école normale où ils vont, pour les plus jeunes, courir dans tous les sens et puis pour les ados, discuter, s'aérer, marcher quand même en discutant. Donc c'est vrai qu'il y a chez certains un trop plein d'énergie et c'est plus difficile de se coucher le soir. Alors déjà, premier conseil, l'histoire du soir. Il ne faut pas faire l'impasse de l'histoire du soir pour les jeunes, ceux qui sont en primaire. Et ça peut être d'ailleurs un moment d'échange après l'histoire où l'enfant peut poser des questions qu'il n'a pas pu poser dans la journée parce que les parents étaient en télétravail ou parce qu'on était dans les devoirs. Il faut maintenir une certaine routine dans la journée et puis surtout la routine du coucher le soir et puis faire un petit peu comme d'habitude. Et puis si l'enfant a du mal à s'endormir, il faut se dire que c'est pas grave, comme je disais tout à l'heure pour les devoirs, là on vit une période quand même exceptionnelle et tout peut pas se passer comme prévu.
Ben oui, bien sûr. Docteur Vera, tout à l'heure on a parlé de l'école, on a compris, vous nous avez donné beaucoup de conseils qui vont nous être précieux, mais tout ce qui est à côté, parce qu'une fois qu'on a fini l'école, il reste encore pas mal de temps libre quand même. Une fois qu'on a fait 10 fois des gâteaux, à part les scotcher sur des écrans, quelle autre solution on peut avoir avec eux quand on peut pas trop sortir, hein, parce que c'est le but quand même du confinement.
Alors ça m'amuse beaucoup cette question-là, parce que justement, je disais tout à l'heure à certains jeunes, allez, à 15h30, tu écoutes Europe 1, et il y a 3 jeunes quand même qui ont dit, c'est sur quelle chaîne ? Les jeunes savent même plus ce que c'est que la radio, et puis j'en ai un qui a dit, mais on n'a pas cette chaîne.
On peut l'écouter sur Internet aussi, il faut leur dire.
Mais oui, mais alors justement, on peut faire tout un tas de choses autres que les écrans. D'abord, il y a les podcasts.
Écouter la radio, c'est très bien, les podcasts, voilà.
Les podcasts, la radio, et puis après, il faut revenir au basique. Je disais tout à l'heure, il faut reprendre un peu le temps, et puis on a le temps de faire un Monopoly. Enfin, c'est les parties interminables qui durent 4 heures de Monopoly, ça nous sauve la vie parfois. Donc les jeux de société, c'est super indiqué en ce moment. Et puis tous les basiques, je disais, la peinture, le dessin, le coloriage. Pour les jeunes stressés, j'ai trouvé une super idée sur Internet. C'était de faire des mandalas avec une feuille de sopalin.
Vous savez, le sopalin avec les petits
oui,
trous, là, on prend des feutres et puis on s'amuse à faire point par point. C'est une activité relaxante et en même temps qui apprend à se concentrer.
Ah,
et
oui,
puis
c'est
après,
c'est une très bonne idée, ça.
Alors mon fils a tenu à me donner une idée pour l'émission, on a fait une expérience géniale. Je fais un coucou à Théo qui, pour la première fois, peut m'écouter. On met un œuf dur dans un verre de vinaigre de vin blanc et on le laisse tremper pendant 24 heures. Et au bout de 24 heures, qu'est-ce qu'on a ? On a une petite balle rebondissante.
Génial, bon, on va faire ça directement ce soir, mais c'est génial.
Exactement, vous avez la coquille qui se dissout et vous avez une petite balle rebondissante. Quand on a assez joué avec, on a un code de conduite, c'est que on la lance par la fenêtre, mais uniquement sur les gens qui portent le masque sous le menton.
Merci beaucoup, docteur Vera, j'adore. On va faire ça dès ce soir chez moi, ça c'est sûr. Jimmy aussi, je suis sûr, hein, je le sens, l'œuf, ça va aller directement. Merci, docteur Vera, d'avoir été avec nous pour nous donner tous vos conseils en ce qui concerne donc la santé mentale aussi des plus jeunes, car oui, c'est pas difficile pour nous, hein, évidemment, pour nous les parents, pour eux aussi parfois. Donc merci pour tout, merci.
Merci à vous.
Sans rendez-vous. Mélanie Gomez.
Dans un instant, ce sera la chronique psycho de Catherine Blanc qui va aujourd'hui nous parler de ceux que le confinement a au contraire apaisé professionnellement et qui du coup craignent peut-être le retour au travail le 11 mai prochain. Ça sera dans quelques minutes, mais d'abord on va écouter un peu de musique. C'est la chanteuse Janet Jackson, ça s'appelle That's the way love go. Jackson qui vous a fait peut-être un peu danser sur Europe 1 avec son tube That's the way love goes.
Europe 1, Mélanie Gomez.
La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15h, toujours à mes côtés le docteur Jimmy Mohamed et elle nous rejoint tout de suite en ligne, Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Bonjour Catherine.
Bonjour Mélanie, bonjour Jimmy, vous allez bien? Dites-moi.
Mais oui, écoutez, très bien.
On a
plein de choses rigolotes avec notre pédopsie tout à l'heure. On va faire des œufs là dans du vinaigre pour faire des balles rebondissantes. Vous voyez, on est super excités.
Et vous allez canarder les vilains, c'est ça,
c'est
bien
ça,
compris.
Exactement.
Hein.
Alors Catherine, aujourd'hui, on va prendre la question qui nous a été envoyée par mail par Megan. Je vous la lis. J'ai trouvé beaucoup de confort dans ce confinement, car je dois reconnaître que cela a mis sur pause tout ce qu'il me fallait accomplir professionnellement, alors que je doutais de moi. Pourtant, maintenant, je déprime, je ne comprends pas. Qu'en pensez-vous? Catherine, premièrement, comment on explique le fait que Mégane, finalement, elle aille mieux professionnellement en travaillant pas? Parce que là, je ne comprends pas trop.
Ah, ça, c'est sûr. C'est une curiosité d'aller mieux professionnellement sans travailler. En tout cas, elle va mieux psychologiquement puisqu'elle n'est pas confrontée à la lecture qu'elle a d'elle-même, peut-être défaillante ou qu'elle s'évalue par rapport aux autres moins capables ou plus en doute, que sais-je. Et donc, du coup, évidemment, ce confinement lui a donné l'autorisation de repartir dans sa grotte, dans son nid, et de ne pas être dans le passage à l'acte. Donc, ça lui a apporté, évidemment, beaucoup de confort, jusqu'à présent, en tout cas.
D'accord. Jimmy ?
Est-ce que, justement, les personnes qui étaient en burn-out juste avant le confinement pourraient, du coup, avoir un peu de répit, une bouffée d'oxygène qui permet un peu de remettre les compteurs à zéro et peut-être de se réorganiser avant de reprendre l'activité, pardon ?
Absolument, c'est très juste. Effectivement, ils ont tout le loisir, tout d'un coup, de s'être remis, de s'avoir retrouvé un respect peut-être biologique dans le rythme de qui est le leur, dans la reconsidération de la situation, de leur soumission peut-être à la hiérarchie ou à l'injonction de la hiérarchie. Ceci étant, encore une fois, dans le cas de Megan comme dans le cas que vous citez, les cas que vous citez. Jimmy, le retour à la réalité va se faire à nouveau, donc il implique d'être en capacité physique évidemment, donc on peut imaginer que ce confinement ait permis pour nombre d'entre nous de retrouver un peu de calme et d'élan dans le corps, à moins qu'on se soit évidemment massacré alimentairement, auquel cas ce sera difficile, on sera au contraire fatigué, surtout si on a abusé en sucre, mais sinon après effectivement il faut aller se reconfronter au réel, prendre sa place dans le réel, avec un tant soit peu de confiance en soi pour s'inscrire dans une singularité, c'est-à-dire sans s'évaluer par rapport à son voisin et peut-être avoir reconsidéré ce qu'il nous fallait dire, faire ou les stops, les limites à poser éventuellement pour envisager son travail de manière pérenne pour soi et évidemment pour la qualité tout simplement professionnelle.
Catherine, est-ce que Megan, elle devrait pas peut-être profiter de la période de confinement, entre guillemets, puisqu'elle semblait quand même avoir des problèmes professionnels avant, et en tout cas beaucoup d'angoisse, peut-être pour consulter, je sais pas, par téléconsultation, un psychologue ou quelqu'un qui pourrait l'aider un peu, l'accompagner vers ce retour à la vie normale?
C'est sûr que c'est un bon moment parce que souvent la consultation psy dans le flot de la vie professionnelle plus la vie peut-être parentale, familiale et autres n'offre pas beaucoup de temps pour prendre du recul, pour se poser, pour écouter ce qui est à l'œuvre en soi. Donc c'est vrai que c'est un moment particulièrement opportun. Il n'y a pas on n'est pas en vacances, on est à la fois au travail, les thérapeutes sont présents. Il y a la possibilité d'analyser ce qui ne va pas pour essayer de trouver des solutions, ses propres solutions, plutôt que de simplement profiter du confinement comme d'une fuite pour faire un peu comme l'autruche, hein, on met la tête dans le sable et on croit qu'il n'y a plus la dangerosité du réel alors qu'il est toujours présent pour nous et qu'il est important de pouvoir aller le confronter. La peur n'annule nullement le danger, donc c'est se confronter à ses propres peurs qui permettent de se mouvoir dans la vie et notamment dans la vie professionnelle.
Donc pourquoi pas se lancer, débuter en tout cas une psychothérapie, ça pourrait être intéressant. Jimmy Mohamed ?
Est-ce que c'est un peu comme à la fin des vacances, on a une petite déprime à l'idée de reprendre ? Est-ce qu'on peut comparer ça de cette façon ou pas du tout ?
Je crois qu'il y a en effet, tous les enfants ne sont pas déprimés à la fin des vacances ou tous les adultes à reprendre leur travail. Ce sont en général ceux qui ne se sont pas suffisamment reposés pendant les vacances, n'ont pas retrouvé suffisamment d'élan, suffisamment de désir en eux pour pouvoir réaborder la vie et ses devoirs et en faire l'expression de son épanouissement. Et puis ce sont aussi les enfants qui ont peiné dans la scolarité, ont trouvé dans les vacances la la sécurité, le confort à nouveau de l'environnement parental et amical ou fraternel, et tout d'un coup qui doutent à nouveau de leurs compétences à pouvoir être à la hauteur d'une année supplémentaire et d'une année où on va à nouveau remonter d'un échelon ses compétences et son apprentissage. Donc oui, évidemment, quand nous sommes déprimés, c'est que nous sommes remis en question sur l'idée que nous nous faisons de nos limites, et évidemment, plus nos limites nous semblent très accessibles, plus la confrontation avec le réel et le rythme du réel et les attentes du réel ou supposées de ce réel nous font peur et donc nous mettent dans un état un peu dépressif. Et c'est, évidemment, il faut être vigilant pour ne pas partir déjà vaincu avant le début de la course. Donc la psychothérapie peut être une chose, y réfléchir personnellement une autre, et puis en matière de psychothérapie, il y a beaucoup de choses, hein. Il n'y a pas que la thérapie de type analytique, il y a beaucoup de choses.
Merci beaucoup Catherine pour tous ces conseils. On vous retrouve bien sûr demain. Voilà, c'est la fin de cette émission. Continuez à nous envoyer vos questions au 39-21, 50 centimes d'euros la minute, qui seront reversés à l'Institut Pasteur. À présent, je vous laisse avec Mathieu Noël et son équipe Sauvage. Bonjour Mathieu.